On va pas.
Ensuite, et surtout quand il a fait un effort. Si l'effort n'est pas pris en compte, moi je viens dans une recherche que nous avions en fait à l'INRP, eh bien, tous les élèves disaient qu'on ne tenait jamais compte du travail réel qu'ils avaient fait, même on tenait compte d'un résultat, on ne tenait pas compte du travail. Or, effectivement, c'est le travail qui est important, avec en même temps des rectifications, mais à établir avec l'élève, dans la mesure où il s'est intéressé, alors il sera intéressé à rectifier ses erreurs.
Alors le lien qu'on voudrait faire, donc, c'est autour de la problématique du décrochage scolaire. C'est une chose que l'on rencontre assez régulièrement dans les collèges et les lycées, notamment professionnels, mais maintenant même généraux. Dans les filières générales, on s'aperçoit que même en plein milieu de première S, par exemple, des élèves se mettent à décrocher. C'est plus sournois, mais c'est réel. Sans que cela, finalement, encore questionne le fonctionnement du système. Et donc, on a évoqué en quoi l'accompagnement et le rapprochement vers l'élève serait intéressant. On a évoqué la nécessaire ingénierie, les pratiques d'évaluation, de voir que finalement la notation peut être une cause. Est-ce qu'on peut travailler sur le décrochage scolaire? Pourquoi un jeune, ou moins jeune, en tout cas, manifestement, quand on écoute ces jeunes retracer leur histoire, ça se passe souvent tôt, plutôt qu'on croit d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ça décroche?
Eh bien, je pense que, si vous voulez, il y a un lien à établir dans l'actualité entre le drame dans les entreprises qui montre le désespoir au travail et qui montre jusque à des suicides. Et n'oublions pas qu'il y a aussi, parfois, chez nos élèves, des tentatives de suicide.
Il faut rappeler, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes.
C'est la première cause de mortalité chez les jeunes. Et ce peut être lié à des quantités de facteurs, mais le facteur, justement, du découragement qu'il peut avoir subi par des insuccès, marqués par des notes, en même temps avec l'idée que la note est précise et vraie, alors que dans les travaux que nous avions faits jadis avec l'inspection générale, en faisant venir, je l'ai souvent rappelé, une cinquantaine de professeurs de lettres remarquables et grands éducateurs et une cinquantaine de professeurs de mathématiques, leur donnant pour chacun une même copie du niveau du brevet de l'époque. Eh bien, les notes se distribuaient pas du tout d'une façon homogène, mais elles se distribuaient entre 4 et 17 en français et entre 3 et 18 en maths, je regrette. Il peut y avoir il suffit qu'il y ait une virgule qui manque, il suffit qu'il y ait un mot qui ne soit pas bien écrit, qui soit mal lisible, il suffit de peu de choses pour créer des difficultés, des variations. Donc, que l'on fasse de la compétition, que les corrections avec double correcteur, c'est une meilleure solution, comme je l'ai vécu en oral à l'HEC jadis, c'est une solution, mais croire automatiquement que la note dit une vérité définitive et le faire croire à l'élève, c'est le mettre en situation de se dire qu'il ne vaut rien, qu'il est nul, qu'on emploie le mot nul, d'ailleurs, pour les élèves, est quelque chose
d'incroyable. Oui, sans aucune prise, finalement, sur une logique qui n'est pas logique.
Oui, et surtout, il y a identification entre son travail et lui. Dire qu'il est nul, c'est faire que l'échec de son travail soit imputé comme la nullité de sa personne. Enfin, il y a quelque chose d'incroyable comme faute à une éthique évidente, à une éthique républicaine et laïque, encore une fois, qui me tient à cœur.
On ne prend pas la mesure d'une chose, c'est le nombre, finalement, d'actes quotidiens, voire même de micro-actes ou micro-gestes, qui fait que l'élève, ou certains élèves, ça arrive à se cumuler souvent, à se focaliser sur certains élèves. accumulent sur une journée, puis sur une semaine, un certain nombre de choses qui sont très marquantes et qui sont très blessantes au niveau identitaire.
Alors là encore, si vous voulez, ça remet en cause l'organisation hebdomadaire et journalière de l'enseignement dans nos établissements scolaires et même dans les établissements universitaires, mais en tout cas scolaires. Dans lequel, effectivement, une succession, se dire qu'on va faire à la suite 6 ou 7 disciplines différentes, et ça veut dire qu'il faut à chaque instant être aussi attentif, être aussi en forme, être aussi prendre des notes, c'est etc., d'un bout à l'autre de la journée. Je crois qu'il y a, un aspect mythique. Là. Il y a une, nous avions plaidé dans des recherches qui avaient montré leur efficacité pour des durées horaires variées, parfois très brèves, pour préparer certaines choses, parfois au contraire avec long, du temps pour faire une série d'organisations, de travaux écrits, de réalités, de passages au tableau, de travaux en petits groupes, de passages au centre d'information et documentation, etc.
Enfin, Alors vous évoquez la fragilité du travail en faisant le parallèle par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde du travail sur justement les difficultés psychologiques qui vont jusqu'à...
Le stress. C'est là, actuellement le risque de notre système, comme dans les entreprises, c'est d'établir un stress. On a un programme à faire, mais le programme, il est à faire raisonnablement. Et il faut en tirer, il faut faire... Là encore, imaginez qu'un cours d'histoire, les élèves devront savoir à la fin tout ce qui concerne Charlemagne, tout ce qui concerne l'ensemble. Non, il faut se préoccuper qu'est-ce qu'il doit retenir. Bon, déjà, le mot de Charlemagne, peut-être, mais bon, je vais un peu plus loin, bien entendu. Mais se dire que autant le détail qui peut donner de la couleur, de la beauté à la description d'une époque et à la compréhension de cette époque, autant ensuite le mémoriser à tout prix dans la tête du jeune, ça n'est pas raisonnable. Et il faut savoir donc quel est le résumé possible, simple. Et moi je dis souvent à des professeurs, si dans les 3 premières semaines, vous arrivez à présenter l'ensemble du programme, qui est justement officiel, et indiquer chaque fois un commencement d'information, et un commencement de travail par des élèves, eh bien, au bout de 3 semaines, vous avez terminé le programme et vous pouvez commencer l'enseignement de la discipline, dans lequel, effectivement, vous établirez, là encore, des moments forts. Et là encore, si vous voulez, moi, j'aime beaucoup, comme nous l'avons présenté souvent dans nos propos écrits, les collègues qui disent on fait 3 semaines de travail, mais ensuite on passe une semaine d'évaluation. Alors là, point à point, tu as fait ça, etc. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a progrès? Là, je crois, là, c'est du travail intéressant. L'évaluation ensemble avec l'enseignant et les élèves, et de manière à voir où on a buté et où, au contraire, on a trouvé le passage et où il faut, justement, alors reprendre. Donc, il faut revenir à ça. Et puis aussi, au contraire, il faut progresser ailleurs, etc. Donc, il y a un travail d'investigation qui est un travail de chasseur dans la brousse des difficultés où les élèves ont à se déplacer avec leurs enseignants.
Il y a, quand on a interviewé des élèves décrocheurs, ou en tout cas qui ont raccroché à l'école plus tard, et les professeurs avec eux ont mené l'analyse de leur parcours scolaire, ils disaient plusieurs choses que vous avez évoquées. L'une chose, c'était le fait que la notation a été très dure. Ils n'ont pas supporté à un moment donné, non pas forcément la notation en elle-même, mais le fait qu'il y ait une succession saccadée d'actes d'évaluation constamment dans le même sens.
En pleine face devant tous les autres.
Cet aspect-là des choses a vraiment brûlé un certain nombre de ressources et de personnes. Ouais. Et la deuxième chose, c'est ce que d'ailleurs répètent les cliniciens du travail ou les médecins qui sont attentifs aux évolutions maintenant des organisations, où ils parlent du travail émietté.
Eh oui.
Le travail émietté, ou le travail où on ne finit pas la tâche, est quelque chose qui manifestement coûte mentalement énormément. Il y a un coût psychologique au fait qu'on commence quelque chose sans le finir, ce qui est le cas de la plupart des cours. Les cours de 40-55 minutes ne permettent pas de réaliser, d'avoir une vue globale, synthétique,
de ce qu'il faut retenir.
Et de ce qu'il faut retenir. Et précisément, l'organisation scolaire traditionnelle, telle qu'on peut l'avoir au moins dans le second degré, mais qu'on peut retrouver ça dans le premier degré, fait que on commence quelque chose et puis on suspend la chose, puis après on passe à autre chose. Et donc 6 fois dans la journée, ça fait dur, quoi. Et donc cet émiettement est un facteur de lâchage. À un moment donné, il y en a qui ne suivent pas. Donc, où le lien finalement n'est pensé que par ceux qui vont avoir les ressources par ailleurs de penser le lien. Soit parce qu'à la maison, on travaille ce lien-là, en disant, mais qu'as-tu appris? Où est-ce que...
C'est
Si ce n'est pas là accompagné, ça va
forcément
être dur.
hérétique.
Oui.
On met des dispositions et alors, en même temps, on a compris qu'il fallait aider ceux qui avaient plus de difficultés côté de leurs ressources familiales et autres, mais ce n'est pas suffisant. C'est fait d'abord au titre homéopathique et ensuite ça n'empêche pas l'ensemble d'être émietté, cet emploi du temps émietté. Et alors que moi je vois, même dans des grandes écoles qui ont encore un caractère de mon temps, on ne faisait pas de la chimie tous les jours. On faisait de la chimie pendant un certain trimestre ou semestre, et puis on faisait autre chose dans l'autre semestre, et ainsi de suite. On faisait de l'analyse à un moment donné, on faisait à l'époque également un certain nombre d'enseignements multiples, mais enfin, en se donnant du temps. Il y en avait un peu chaque jour, quelque chose, on pouvait progresser. Et je crois que c'est du bon sens. Enfin, et je l'ai souvent dit, d'ailleurs, à des corps d'inspection, souvent dire qu'il fallait aider les enseignants à regrouper certaines heures. Et personne n'a jamais dit que l'émiettement est une obligation nationale.
Non, non, c'était...
Alors, c'est une habitude qui a été prise.
Nos seules obligations, c'est un volume de formation horaire sur l'année.
Voilà, sur l'année.
Et par discipline. Voilà ce qui est donné.
Donc, il y a une richesse d'organisation des emplois du temps qui existe, dont nous avons montré la variété, là encore, l'ingénierie possible. À condition que les gens, justement, cherchent à voir... Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est intéressant de connaître comme exemple extérieur pour adapter, transformer cet exemple dans le cas local où l'on est, dans les conditions, avec l'accueil, avec la compréhension, en discutant entre enseignants, avec les chefs d'établissement et sous-direction du chef d'établissement.
Il y a un facteur que vous avez évoqué et qui me semble intéressant pour y revenir, c'est le fait que... quand bien même l'élève, personne, peut avoir rencontré des difficultés, lui-même, on évoque toujours les conditions sociales, familiales, économiques, etc. Il y a une dimension interne à l'école qui y influe, c'est le fait que les choses, les gens étant comprimés, notamment par des emplois du temps, mais aussi par des programmes, etc., cette compression, cette pression, et vous avez dit le mot stress, c'est le stress finalement, du travail lui-même, du travail des enseignants, du travail de l'établissement scolaire,
qui explique beaucoup de difficultés psychiques de certains enseignants, et heureusement,
et qui va avoir des effets non désirés en tout cas sur des élèves qui peut-être les plus fragiles à un moment donné.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que on retransmet une pression.
Une pression, un stress.
En mettant finalement les enseignants dans des difficultés, pas forcément évidente à gérer, hein, effectivement, entre on me met dans des situations où je dois faire des choses que je ne pourrais pas faire, je le sais. Et donc, c'est la quadrature du cercle. Et c'est vrai que il y a une partie du stress qui va être transmise au groupe classe, et en tout cas qui va s'attacher à un certain nombre d'élèves. Cette vision un peu système n'est pas souvent la plus explicite, en tout cas dans les analyses qui sont faites. Et donc ça donne aussi des clés pour voir ce qu'on peut faire pour lutter contre ce stress.